CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Magazine d'actualité en ce début de semaine en CFM Villefranche, jour de la Saint-Georges, et c'est Karine Justeau que l'on accueille aujourd'hui pour ce rendez-vous hebdomadaire autour de l'équilibre alimentaire, de la nutrition et du goût. Bonjour Karine.
Bonjour David, et alors bonne fête à tous les Georges.
Tous les Georges, voilà. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien écoutez, on avait dit qu'on parlerait éventuellement du public enfant.
Ah oui, des petits.
On n'en avait pas parlé depuis longtemps.
Oui.
Et puis voilà, j'ai rencontré une maman un peu inquiète, là, il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit que j'allais parler de la néophobie alimentaire. Peur du nouveau, donc, dans l'alimentation.
D'accord, du nouvel aliment,
Exactement, bah c'est exactement ça. Ou bien que tout d'un coup, il refuse de manger un aliment qu'il aimait quelques semaines ou quelques jours auparavant. Mmh. C'est la peur du nouveau, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est très énervant, toutes les mamans ou papas qui nous écoutent, ont des enfants et qui ont un enfant qui ne veut pas manger à table.
Sauf des pâtes et du riz.
Voilà, sauf des pâtes et du riz. Exactement, mais là vous avez mis le doigt sur quelque chose qui peut expliquer. Parce que effectivement, cette période où l'enfant refuse les aliments nouveaux, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ce que je veux dire là, c'est que parents, ne vous angoissez pas parce qu'il ne s'agit pas d'un trouble du comportement alimentaire. Si on est vraiment inquiet, ce qu'on peut faire, dans tous les cas d'ailleurs, c'est tracer les courbes de croissance qui sont sur les carnets de santé et surveiller. Mais en tous les cas, le fait à un moment donné de ne plus vouloir manger les aliments nouveaux, c'est quelque chose de normal.
Et c'est le bras de fer hein, dans les familles.
Et ça peut devenir effectivement le bras de fer. Alors, apogée de cette période un peu moins rigolote, de 2 ans jusqu'à 5, 6, 7, parfois 8 ans même. Alors, pourquoi tout simplement, parce que premièrement, vers 2 ans, c'est la phase du non. Vous savez bien, voilà, l'enfant dit non, et tout d'un coup, il s'affirme, et c'est comme le super-héros, il va se découvrir le super-pouvoir de refuser les choses. Je sais dire non.
Oui.
Voilà, donc ça englobe aussi l'alimentation, d'accord? Ça peut être aussi une recherche de sécurité, parce que c'est une période où on va le changer de... Enfin, il va passer de la nounou à l'école, par exemple, etc. Et donc, d'avoir des aliments, comme vous disiez, les pâtes, le riz, etc., c'est des choses qu'il connaît, donc ça au moins, pouf, c'est quelque chose de stable. Donc ça a quelque chose de rassurant. Ça peut s'expliquer encore par l'autonomie croissante, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, l'enfant, voilà, en théorie, il s'est mangé un petit peu tout seul, il s'est porté la fourchette, la cuillère à la bouche, etc. Et donc ça va, du coup, il va avoir un questionnement par rapport à ce qu'il va mettre dans sa bouche. Vous voyez ? Avant, on lui donne, donc il fait confiance dans l'absolu à l'adulte qui le nourrit. Là, il va prendre lui-même. Donc, va émerger des questions inconsciemment, bien sûr, du « est-ce que ce produit est vraiment bon pour moi ?» Et vous savez, je crois qu'on l'a déjà dit dans certaines rubriques, le truc vert, là, je vais m'en méfier, comme de la peste. Le malheur, c'est que qu'est-ce qui est le plus souvent rejeté, je vous le donne dans le mille comme famille d'aliments, ce sont les fruits et les légumes. Alors, vous savez combien c'est important, les fruits et les légumes, pour l'avenir, pour quand on est plus grand, ado, adulte, etc. Donc, ça veut dire que là, quand on est parent, ça va être super important d'être super patient et de rien lâcher pour que, malgré tout, on continue de proposer des légumes, parce qu'on sait que cette période, elle va passer, et qu'on sait aussi qu'après 8 ans, si l'enfant n'a pas conservé cette petite habitude de manger des végétaux, ça sera beaucoup plus difficile. D'accord? Donc, surtout, il faut pas lâcher. Alors, comment on fait ?
Le discours, c'est ça. Ce que j'allais vous dire. Le discours, c'est quoi ? Goûte et puis après, on en parle ?
Alors, chaque parent va le faire un petit peu selon ses propres affinités. Déjà, si le parent lui-même ne mange pas de fruits et légumes, ça va être déjà beaucoup plus compliqué de faire comprendre à l'enfant qu'il faut en manger. C'est ce qu'on appelle l'éducation silencieuse. Donc ça, déjà, ça peut être très important. Imaginez l'enfant qui voit son parent se régaler d'haricots verts. Je reprends votre exemple. Forcément, ça donne plus envie. Après, le chantage, je dirais, ça peut fonctionner un temps, mais très vite, ça peut conduire à la guerre des tranchées pendant les repas et c'est pas très agréable. Hein. Après, il y a certains enfants sur lesquels ponctuellement ça peut fonctionner aussi. Après, on peut se dire que de faire participer l'enfant, et ça je crois que c'est de toute façon bon pour tout, ça va forcément lui donner envie. On peut aller sur le marché avec lui, on peut lui faire découper des légumes, on peut les faire éplucher, les faire laver même. Enfin, faut pas avoir peur de retrouver sa cuisine un petit peu en vrac. Mais après tout, tant pis. Si on lui donne ces bonnes habitudes-là quand il est petit, il aura envie de les faire perdurer. Et en tous les cas, il aura plus envie de les goûter quand il les aura lui-même manipulés.
Totalement.
On est dans une région encore où on peut emmener les enfants dans une ferme, voir les vaches, par exemple, ou les animaux, etc. Voir ramasser des œufs, enfin, ce genre de choses. On peut aussi, ce qui marche pas mal, nous, quand on donne des conseils à des parents inquiets, c'est de lui donner des missions à cet enfant-là. Ben, mets la table, mélange, va arroser les petites tomates dans le jardin. Voilà. Tout ce qui va...
Ça suffit pas, ça.
L'impliquer.
Alors, plus loin. Mais c'est
voilà,
un début.
Ça dépend des enfants, effectivement. Il y a des enfants qui vont être un petit peu plus rebelles que d'autres, et puis avec lesquels il va falloir un petit peu plus insister.
La tomate, de manière générale, ça pose pas de problème aux enfants, la tomate.
En général, non, mais bon, dans les bonnes néophobies alimentaires, des fois, il y a plus rien qui passe d'autre que, effectivement, les pâtes ou le riz. Hein. Alors voilà, c'est ne pas craquer parce qu'on sait que c'est important et que si on lâche là à cette période de la néophobie. Après, ça va être très compliqué. Ça va être aussi l'idée de gratifier. Ah ouais, mais c'est super, t'as mangé les tomates, t'as vu comme c'était bon, tu t'es bien régalé. Ou tiens, t'as bien préparé, c'est super bon, tu veux pas goûter un peu. Ça marche bien. Voilà.
Privé d'histoire avant d'aller se coucher et paf, voilà. Bah, la néophobie alimentaire, donc aujourd'hui dans la chronique de nutrition de Karine Justeau. La semaine prochaine, Karine, vous avez une petite idée, c'est encore trop tôt pour l'apéro. Arrêtez avec vos histoires d'apéro.
Écoutez, on a parlé des enfants, on peut peut-être parler de nos seniors.
Ah bah, belle idée, très bien.
Allez.
Belle semaine,
vous
excellente
aussi.
Journée. La suite du programme, une rapide musique et Delphine Henneke en studio, naturopathe au magasin Au Bio.
On a besoin de temps pour décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'avirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour regagner la terre ferme. Attention, une fois qu'il y est, t'es un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes fapes avant d'aller te balader. Sois pas trop blasé. Allez, seuls les stons sont distribués. Ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartin gommé. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager et s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Et allez, zoup, la deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité avec en studio herself Delphine Henneke. Coucou Delphine.
Coucou Delphine.
Oh là là, j'essaye de te mettre un peu parce que t'es arrivé super ronchon dans le studio. Est-ce que je peux dire à tout le monde ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt?
Oui, oui, vas-y, parce que là, je suis curieuse de savoir.
Enceinte pour la journée, merci de ne pas déranger. Ça veut tout dire, ça. C'est ne m'embêtez pas aujourd'hui. T'es colère,
c'est une
t'es
horreur,
remontée.
C'est une horreur, ça commence bien. C'est toi qui me l'as offert.
Parce que je connais ton petit caractère. Voilà, t'es un peu, des fois, bon, bah, t'arrives, t'es pas contente. Et j'imagine
mais
que c'est
plus,
dû.
C'est pas vrai, pourquoi tu sais de me passer pour la personne de mauvaise humeur?
Non,
ça m'est arrivé. Et la fois, j'étais de mauvaise humeur,
ouais.
Je l'ai dit.
Ouais, enfin, t'es de mauvaise foi aussi, donc on sait.
Non, ça, c'est pas
on
vrai.
Sait jamais. Oh, si, c'est
des fois, je suis de mauvaise humeur, mais je suis jamais de mauvaise foi.
Delphine Henneke, naturopathe au magasin, au bio-espace géré par Ingrid et Valérie, situé avenue de Toulouse, et pif paf pouf, aujourd'hui, tu me l'as glissé dans le creux de l'oreille, les intolérances alimentaires. Les, c'est pas l'intolérance alimentaire, le gluten, quoi. On va parler de gluten.
Non, bon, oh là là,
pas que. Non, déjà, il faut essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est que les intolérances alimentaires déjà.
Oui.
Est-ce que c'est bien clair dans notre petite tête? Alors, on devrait plutôt parler d'hypersensibilité à un aliment, hein, parce que l'intolérance alimentaire, souvent, ça fait penser à l'allergie. L'hypersensibilité, c'est une autre forme d'allergie, mais c'est pas les mêmes réactions immunitaires qui est en jeu. Donc on peut être hypersensible à un aliment et au contact de cet aliment pendant des années sans se rendre compte que c'est vraiment cet aliment qui génère chez nous en fait des troubles chroniques.
On peut en manger, mais ça provoque des désagréments.
Oui, des désagréments qui sont pas forcément identifiés. Et c'est en ça que la chronique, je pense, peut apporter un éclairage sur parfois le mal-être de certaines personnes, qui n'est pas forcément mis en lien avec ce qu'ils mettent dans leur assiette. Le problème de l'hypersensibilité à des aliments, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va avoir en fait des macromolécules d'aliments en fait qui vont passer la barrière intestinale parce qu'elle est poreuse, en fait. Elle est trop poreuse. Elle est hyper perméable. Et donc, ces macromolécules vont se retrouver dans le sang. Ça va faire des agrégats et, en fait, provoquer une réaction du système immunitaire. Là, il se dit, oh, ça n'a rien à faire là. Donc, il va provoquer tout un tas de troubles dans lesquels on va les gens vont se retrouver. Alors, faut savoir quand est-ce que ça se manifeste. Alors, la différence avec l'allergie, t'es allergique aux fraises. T'avales une fraise, tu le sais, t'es allergique dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent. Voilà, une réaction hyper violente. Là, la manifestation, elle peut être entre 3 heures et 3 jours après l'ingestion. Donc c'est déjà moins facile à identifier.
Ça complique.
Alors, les divers symptômes, bien sûr, les troubles digestifs, comme les ballonnements, des difficultés de transit, des douleurs abdominales. Bon, des fois on se dit oui, mais je suis un peu stressée, je sais pas, j'ai dû avaler un truc, c'est pas. Mais là, je parle des choses chroniques, on est d'accord, hein, on parle pas de la gastro qui passe, on parle de chronicité, c'est-à-dire quand c'est tout au long de l'année, depuis des années, et depuis souvent même très très longtemps. Des troubles ORL chroniques, hein, tout le temps, la gorge qui racle, le nez qui coule, voilà, on a l'impression que, en fait, on attrape le moindre virus, mais c'est aussi parce qu'il y a un terrain favorable à ça, parce qu'on a un excès de mucosité. Des douleurs articulaires, voilà, on a mal partout, on ne sait pas pourquoi, on a diverses inflammations et voilà, ça peut venir de l'intestin, bien sûr. Tout ce qui va être migraine, également, des migraines chroniques, des dépressions, mais de la nervosité aussi, un état psychique instable, voilà, du hyperactivité, les gens s'excitent, des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives aussi, le diabète de type 2, la fibromyalgie, hein, parce que je parlais d'inflammation, et puis la fatigue chronique. Voilà, on va se retrouver. Alors tu vas me dire, oui, mais il peut y avoir multiples... C'est vrai, il peut y avoir... Non, t'as l'air de me dire d'ailleurs. C'est parce que vu la tête que tu fais, je te dis, t'allais me dire, mais non, t'as l'air de me dire.
C'est l'introduction à la chronique. Moi, je suis toujours intéressé par comment on fait pour contourner tout ça.
Mais
isoler...
comment on fait pour contourner? Il faut déjà avoir identifié. Est-ce que parmi nos auditeurs, avant de se dire qu'il y a des solutions, parce que bien sûr, l'idée, c'est de proposer des solutions, c'est de dire, ah mais oui, mais est-ce que oui, je serais pas hypersensible à des aliments par hasard. Est-ce que voilà, je me prends des antidouleurs depuis des années et j'avais pas imaginé que ça pouvait venir de ce que j'avale. C'est ça l'idée aussi. Peut-être parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont des troubles chroniques et qui n'ont pas forcément imaginé que ça pouvait venir de leur intestin. Comment expliquer aux gens, oui, mais j'ai des douleurs ostéo-articulaires partout, et puis je suis souvent très fatiguée, et j'ai des maux de tête parfois, et je me sens tout raplapla, je comprends pas, ça fait des années, c'est vrai que je digère pas bien. Mais oui, mais si on leur dit pas, comment ils peuvent imaginer que ça peut venir, par exemple, d'un aliment auquel ils sont hypersensibles. Alors, avant de savoir quelles sont les solutions.
Oui.
Comment on va identifier en fait l'aliment auquel on est hypersensible ?
Il faut ne manger que ça pendant toute une journée. Et puis
n'importe
attendre
quoi.
3 jours. Et puis un autre, on passe à un autre aliment. Et on passe en revue l'ensemble des aliments suspects.
Bon, Ouais, c'est un peu violent. Comme
bah, c'est bon. De la déduction, par déduction, au bout d'un
exactement.
Moment.
Bon, ce qu'on peut faire déjà, si on a un peu les moyens, c'est qu'il existe des tests, hein, tout simple, hein, pour voilà, mesurer les immunoglobulines et permettre de savoir en fait, la liste des aliments auxquels on est hypersensible et surtout à quel degré on est hypersensible. Bon, ça coûte quand même relativement cher, hein, c'est pas... mais ça existe, il faut le savoir, ça existe. Ensuite, on peut effectivement observer son état après l'ingestion de certains aliments.
On fait une mono... C'est pas une monodiète ? Si, c'est une monodiète des...
Oui, mais on n'est peut-être pas obligé de passer par là. Parce qu'on va en parler. Il y a quand même... Je vous ai relevé le top 20 des hypersensibilités alimentaires. Donc, très souvent, c'est les mêmes qui reviennent. Faut pas rêver. Les aliments incriminés sont souvent facilement identifiables. Et puis, quand même, les gens... Comme on n'est pas sur de l'aigu, là. On est sur de la chronicité. Souvent, moi, je le vois dans le cadre des échanges, les gens savent quand même plus ou moins, après l'ingestion de quoi, ils se sentent pas très bien.
On prend ton top 20 un peu à l'envers, numéro 20, et puis on remonte numéro 19.
Non, c'est pas intéressant.
Alors, numéro 10.
Non, c'est pas intéressant parce que...
Alors,
parce
le top du top.
Non, parce que je vais te dire, dans le top 20, le dernier, c'est le homard. Bon, c'est quand même pas un truc qu'on va manger tous les jours. Ouais. Hein. Bon, par contre... moi, c'est vrai que je n'avais pas imaginé, c'est vrai, je l'avoue. Pour moi, le numéro 1, c'était le lait de vache. Eh bien, il ne vient qu'en second.
Ah.
Et oui, parce que le premier, c'est le blanc d'œuf.
Non, voilà. Dingue.
Ouais, c'est le blanc d'œuf. Dans notre top 20, c'est le blanc d'œuf.
Il y a plein de bonnes choses dans le blanc d'œuf, comme
mais
dans le jaune d'ailleurs.
Mais c'est pas la question. On ne dit pas que ces aliments sont mauvais par nature.
Oui, non, mais il y en a, c'est chochotte la cocotte, quoi. J'ai une intolérance alimentaire au blanc d'œuf. Ridicule, en plus, t'es ridicule. Franchement, tu le dis pas, tu t'en caches.
Oui, c'est une façon de voir les choses. Voilà. C'est une façon de voir les choses.
Bon, number one, ok. En deux, le lait.
Ensuite, en 3, c'est la vanille.
Ah, oui.
Est-ce qu'on peut imaginer... Non, mais c'est vrai. Est-ce que, franchement, est-ce qu'on peut imaginer que l'ingestion de yaourt à la vanille ou de la vanille dans je ne sais quoi peut provoquer des maux de tête, des troubles de digestion ? C'est vrai, la vanille, c'est tellement bon, ça a l'air innocent comme ça.
Oui, après, les yaourts à la vanille, c'est souvent un additif. On n'a pas des morceaux de vraie vanille.
Oui. Sauf dans les yaourts bio.
Sauf dans les yaourts bio. Mais tout de même, là, c'est la gousse de vanille ou c'est...
Ah non, c'est vraiment la vanille, la vanille. Tout à fait. Ensuite, en 4, ça va être les céréales à la gluten, donc bien sûr le blé en tête. Ensuite, les amandes. Ensuite, le jaune d'œuf.
Ah d'accord.
Donc là, on sait que l'œuf, ça fait partie des aliments qui provoquent quand même un certain nombre d'hypersensibilités. Ensuite, il y a le nori, c'est-à-dire ces feuilles d'algues pour les sushis. Voilà, ça, c'est pas des trucs qu'on va manger tous les jours, donc ça va. Ensuite, il y a la farine graine de goire, donc, qui est identifiée comme E412, voilà, qui va être surtout dans les plats préparés, les produits sans gluten. Voilà, donc, si vous ne mangez pas des choses transformées, il n'y a pas de raison que vous rencontriez ce produit. Ensuite, c'est l'ananas. Voilà.
Ouais.
Bon, là, c'est pareil, on n'en mange pas tous les jours. Donc, l'agar-agar. Voilà. Ensuite, le pavot, le lin, les capres, les bananes.
Ah, les bananes, mince.
Les bananes, les kiwis.
Ah, mince.
Les huîtres, mais ça, c'est pas trop une surprise. Les noisettes, ça non plus, c'est pas trop une surprise. Ensuite, la levure de boulangerie, le tournesol et donc le homard. On a fini notre top 20 des aliments identifiés comme provoquant de l'hypersensibilité. Incriminés dans l'hypersensibilité. Hein. Parce que après, dans les allergies, ça va être beaucoup la fraise. Oui, je t'écoute.
La banane, quand même, le kiwi, c'est des gens qui mangent la peau avec, non
Sûrement. Les huîtres, ils mangent la coquille. Tout s'explique. Vous avez des mal digestions, mais tout s'explique.
Non, c'est étrange, quand même, parce que ça paraît plutôt innocent, une banane...
Oui, et puis bon, encore une fois, c'est pas tous ces aliments ne sont pas mauvais pour la santé, pas du tout. Au contraire, ils contiennent de très bonnes choses et tout. Mais là, c'est juste la liste de tout ce qui a été relevé dans le top 20 donc, des aliments incriminés dans les hypersensibilités. Mais on ne va pas dire, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour moi peut-être pour l'instant. Parce que l'idée, c'est pas de se dire que plus jamais, si on a relevé une hypersensibilité à l'œuf, plus jamais on ne pourra ingérer d'œuf de sa vie. C'est pas vrai. Si on travaille sur son terrain et si on fait ce qu'il faut, et si on calme nos immunoglobulines, là, qui s'excitent dans tous les sens pour provoquer de l'inflammation parce qu'elles se disent « Oh là là, mais ça n'a rien à faire là », Eh bien, si on se réconcilie avec nos immunoglobulines, et peut-être qu'on pourra de nouveau, au bout d'un certain temps, se remettre en contact avec ce produit sans que ça génère d'inflammation.
T'as du mal à être fataliste, toi. Hein. Rien n'est impossible.
Ah ouais, ben désolé.
C'est dingue, ça.
Désolée. Pardon d'être un minimum positif, je suis désolée. Mais voilà, il y a quand même, ça demande quand même un peu de travail, une vraie prise en charge globale. On est d'accord.
Mm-mm.
Bon, déjà, ce qu'il faut faire quand on a déterminer l'aliment incriminé dans notre hypersensibilité.
On l'isole, on le met en quarantaine.
Exactement. Et là, pendant 2 à 3 mois. Et là, on observe tout de même une amélioration significative des symptômes. C'est-à-dire qu'on va mieux. On n'est pas au top du top, mais on va quand même relativement mieux. Et donc, j'ai noté une amélioration. J'ai relevé, hein, c'est pas moi qui ai fait les études, une amélioration d'au moins 25% des symptômes. Bon, c'est déjà pas mal.
Mmh.
Une fibromyalgie ou voilà, des maux chroniques, c'est déjà bien de se sentir mieux. Donc ça, c'est juste l'éviction du produit qui fait qu'on va déjà avoir cette amélioration. Mais si tranquillement, voilà, on fait ce travail de fond pour rééquilibrer son microbiote. Qu'est-ce que c'est le microbiote ? On l'appelait flore intestinale et maintenant on l'appelle le microbiote. C'est vraiment son intestin. Si on restaure cette barrière intestinale, pour plus qu'elle ne laisse passer ces fameuses molécules qui vont être de suite vite identifiées par le système immunitaire et provoquer de l'inflammation, eh bien, déjà, on va se faciliter le travail. Mais encore faut-il pouvoir restaurer cette barrière intestinale. Déjà, en avoir conscience, et j'espère que... Enfin, c'est un peu le but de la chronique. Après, faire ce qu'il faut pour restaurer cette barrière intestinale, pour qu'elle fasse vraiment ce rempart et qu'elle ne laisse plus laisser passer dans le sang des choses qui n'ont pas à y être. Donc, il faut travailler tous ces paramètres-là parce que certains sont inévitables. Je veux dire, on vit dans un environnement pollué, on ingère forcément des toxiques. Parfois, on n'a pas le choix. Certaines personnes prennent des médicaments, elles n'ont pas le choix. Donc, il faut essayer au maximum, sur certains plans, de faire au mieux pour réparer cet intestin. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ça ?
Ah bon, c'est pas fini ?
C'est pas fini, mais non. J'ai encore plein de choses à dire sur le sujet.
Ah bah non, mais là, faut prendre de la vitesse.
Non, non, j'ai trop de trucs à dire.
Fais-le en mode MP3 synthétique et compacté,
donc,
condensé.
Première chose, la glutamine, qui est un acide aminé qu'on trouve dans notre alimentation par le biais des poissons, des viandes, des légumineuses, des produits laitiers et des céréales. Et justement, quand on évite ça, on se retrouve, on a un déficit en glutamine. Donc, il va falloir l'apporter par des compléments alimentaires. Donc 500 mg en grammes par jour. Donc là, le rôle, c'est vraiment de restaurer cette barrière intestinale. Hein. Vraiment de colmater, c'est le ciment en fait de la barrière intestinale.
Saute 4 lignes là d'un coup.
Non. Non, tu peux pas m'empêcher, j'ai plein de trucs à dire.
Allez.
Tu peux pas m'empêcher. Le zinc, important, le zinc aussi, il joue un rôle dans le maintien de la muqueuse intestinale. Et le zinc, on le trouve en particulier, j'arrête pas de le dire,
dans les huîtres.
Et oui, mais tu vas me dire, oui, mais c'est dans le top 20 des hypersensibilités.
Ouais, enfin, ça arrive loin quand même. Hein. C'est pas loin du homard.
C'est pas loin du homard. Et puis, un champignon à recommander, un champignon médicinal, c'est le fameux hérissium. Voilà, c'est mon champignon chouchou, je le dis, j'ai un champignon chouchou. C'est l'hérissium. Lui, il va vraiment apporter non seulement de la glutamine, mais aussi du zinc, mais aussi de la vitamine B9, et aussi tout un tas d'éléments qui vont être importants pour la protection de la barrière intestinale. Et donc, on va pouvoir restaurer son tube digestif grâce à ce fameux champignon.
Mais voilà, il y a des solutions.
Non,
merci.
Il y a des solutions, mais c'est pas fini. Il va falloir éviter les fermentations, lutter contre l'acidose en général, bien sûr. Donc, voire chronique sur l'équilibre acido-basique.
Oui.
La cannelle aussi, elle aide à cicatriser.
Ah, tiens.
Voilà. Et puis j'ai plus le droit de parler maintenant, alors que j'ai plus le droit de
dire. Oui, bah
dommage.
Oui, bah, l'objet connecté, ça sera pour la semaine prochaine, hein, t'as pour coutume. Mais par contre, de dire tout de même, tu nous en as parlé la semaine prochaine, l'opération Too Good To Go, mais
la semaine dernière, oui.
Oui,
ça fait.
Mais j'ai dit quoi? Ah, j'ai dit la semaine prochaine,
oui,
tu nous en as parlé la semaine prochaine, ouais, c'est retour vers le futur. Too Good To Go, quel succès au magasin Obio, tous les soirs, le parking est encombré. Et petit rappel de principe, juste sur l'idée de l'application.
Non, mais le parking ne peut pas être encombré, puisqu'il y a 1 à 2 paniers par jour seulement. C'est pour ça que tout le monde se bat.
Mais
c'est plus
bagarre.
Ce matin.
Mais oui, c'est bagarre.
C'est bagarre, oui, mais il faut le réserver, et ça, dès le matin, sur l'application Too Good To Go. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, on va se retrouver avec un panier qui, normalement, serait un équivalent de 10 euros pour 3 euros, en fait, hein, grâce à cette application. Et donc, on va venir récupérer des produits qui sont des légumes qui sont pas très jolis, enfin, des choses qui, normalement, ne seraient plus vendables.
Mais largement consommables.
Mais largement consommables, des produits d'épicerie, du frais également, des choses qui sont tout à fait consommables et qu'on va éviter de jeter. Donc, là, c'était un bon moyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Bravo.
Application Too Good To Go, téléchargée, c'est tout simple à faire, hein, voilà.
Eh bien, merci Delphine. La semaine prochaine, tu nous parles de quoi, tu sais déjà? Les odeurs du corps ou les...
Pourquoi tu me regardes comme ça? Les odeurs du corps, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui.
Bah, c'est des indicateurs,
pas, pourrait...
non?
Oui, tout à fait, ça pourrait, mais bon. Je mets la teneur de la chronique. Non, on va parler d'hydratation la semaine prochaine, si
ah,
tu veux bien.
Bien. Hydratation, ok. Merci Delphine.
Bon, je retiens simplement que j'ai pas pu dire tout ce que je voulais sur l'hypersensibilité alimentaire, mais bon, c'est pas grave.
Ouais,
on en reparlera.
Je te fais confiance pour caser ça quelque part à un moment dans l'une des chroniques à venir. Belle journée, excellente semaine. À la semaine prochaine, Delphine. Ciao.
Ciao.
Votre rendez-vous bien-être vous a été présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.